Chronique cinéma avec Louise Véronique Sicotte, qu'on rejoint chez elle. Bonjour Louise Véronique.
Bonjour Hélène.
Louise Véronique, on commence par un documentaire que j'ai bien hâte de voir qui s'appelle Chip Chip ou Chip Chip?
Oh, je pense qu'on peut le dire peut-être de deux façons, mais c'est peut-être Chip Chip.
D'accord, alors on y va avec la bande-annonce puis on vous écoute tout de suite après.
D'accord.
Ma mère, elle jouait très bien du piano. Une fois, elle me dit, quand je jouais du Chopin, t'arrêtais de faire tout ce que tu faisais. Tu t'en venais à côté de moi. Je suis sur la trace d'un être fragile. 40 kilos, les cheveux mouillés, les poches pleines de roches. Il est mort en 1849, à l'âge de 39 ans. Son corps est à Paris, son cœur est ici, à Warszawa, Varsovie, Pologne.
Quand Frédéric est né en 1810, c'était l'armée française de Napoléon qui était rendue là. Bilan de sa désastreuse lubie de conquête, la Russie remet la main sur la Pologne.
Il y a une insurrection qui se prépare. Il devrait partir. Il est comme devenu un trésor national qu'il faut mettre à l'abri.
Il s'est considéré comme le porte-parole de la liberté polonaise opprimée.
Les meilleurs pianistes d'Europe vivent maintenant à Paris.
Il arrive, et d'un seul coup, tout le monde paraît démodé.
Et Chopin va inventer de vous faire passer au travers d'un mur sans le sentir. Il va amener une liberté dans l'utilisation des tonalités.
Les femmes sont parées devant Chopin. Jusqu'au jour où une femme habillée en homme décide de s'en emparer.
Le génie de Chopin, tout de suite, comme ça, ça a tout embarqué, là, chez George Sand.
C'est ici qu'il a écrit plus de la moitié de sa musique. Une des plus belles au monde, à mon avis.
Wow! Quelques notes et on a envie de pleurer.
Oui, c'est tellement touchant, cette musique, tellement prenante. En fait, Desjardins nous arrive là où on ne l'attendait pas du tout.
Absolument.
Parce qu'il nous a habitués à des films beaucoup plus sur l'environnement, dénonciateurs. On pense à L'erreur boréale, Le peuple invisible sur les autochtones, True Story sur l'industrie minière. Et là, il considère ce film comme une fantaisie pour lui. Et c'est la première fois qu'il réalise en solo. Donc, ce film-là, comme on a vu, comme on a entendu dans la bande-annonce, c'est une relation très intime qu'il a avec Chopin depuis son enfance, parce que sa mère jouait du Chopin. Et il a essayé de jouer du Chopin, mais c'était tellement difficile, tellement compliqué pour lui. Alors, il nous amène sur la vie de Chopin, il nous la raconte avec ses mots, avec sa façon de faire, bien à lui. Et il revisite aussi les lieux où a vécu Chopin. Donc, Varsovie, avec sa compagne George Sand. Et aussi, il nous parle de sa relation assez complexe et quand même malheureuse qu'il a vécue avec cette écrivaine. Mais Desjardins nous raconte aussi toute l'influence que Chopin a eue sur la musique, différents styles de musique. Alors, le jazz, la bossa nova, il s'entretient avec des musicologues, des spécialistes de la musique, mais surtout, il nous fait découvrir la musique de Chopin avec le grand pianiste Charles-Richard Hamelin. Mm. Donc, on voit des prestations de différentes pièces de Chopin. On les voit, on les entend aussi. C'est un film qui est à la fois didactique, mais qui a une relation très personnelle avec Desjardins. Ce film-là est un format télévisuel, hein, 52 minutes. Il va être présenté au FNC, donc le Festival du Nouveau Cinéma, vendredi. Mm-hmm. C'est à guichet fermé, parce que le réalisateur sera présent, le pianiste également.
Oh, ce sera toute une soirée.
Ce sera toute une soirée avec remplie d'émotions. Moi, c'est un film qui m'a fait... J'aimais Chopin, qui me l'a fait découvrir d'une autre façon, parce qu'il nous parle aussi de qui était l'homme, avec ses angoisses, avec sa fragilité, son état de santé extrêmement difficile, tout au long de sa vie. Mais le film sera présenté à la télé de Radio-Canada samedi dans le cadre de la série Documanité à 22h30.
Déjà?
Ben oui, c'est une heure assez tardive aussi. Puis moi, c'est ce que je trouve décevant, c'est que ce film aurait pu avoir une vie en salle.
Oui, il me semble.
Comme au cinéma du musée, par exemple. Parce que entendre la musique et voir la performance du pianiste sur grand écran, on entre encore plus dans l'émotion de Chopin. Alors, je trouve ça quand même dommage parce que...
Dans la décision.
Oui, en effet, parce qu'il aurait pu avoir une vie quand même sur un grand écran et par la suite à la télé. Je ne comprends pas cette décision.
Non.
Mais c'est juste que, bon, il sera diffusé une fois à la télé. Utilisez vos enregistreurs si c'est trop tardif comme heure d'écoute.
Oui, ou quelquefois, ce genre de documentaire-là qui passe dans le cadre de cette émission-là, Documanité, et se trouve vite sur tout TV en rattrapage.
Oui, mais ce n'est pas la même chose que le voir sur grand écran.
Ah non, ça c'est sûr.
Ça. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est un documentaire de Richard Desjardins.
Est-ce qu'on le voit jouer au piano? Est-ce qu'on l'entend et on le voit lui-même, Desjardins?
Oui, brièvement, mais pas vraiment, non. Okay. En fait, c'est plus, il laisse la place aux virtuoses.
Un trésor national qui s'intéresse à un autre trésor national.
Oui, en effet. Et puis comment aussi Chopin a influencé sa propre musique.
Oui.
Alors, c'est ce dont il parle.
Ça s'entend sur certains morceaux de Richard Desjardins, là, des grandes envolées pianistiques, oui.
Oui,
alors, on passe à un autre film, cette fois dans un autre univers complet.
Complètement. Vision, de Yann Gozlan. C'est son 8e long métrage. Il avait réalisé auparavant Boîte noire, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, avec Pierre Nenet, qui était dans le domaine de l'aviation, un suspense, qui était quand même très bien réalisé. Là, il récidive encore dans le domaine de l'aviation. Cette fois-ci, il met en scène une pilote de ligne hyper contrôlée, hyper disciplinée, qui est interprétée par Diane Kruger. Alors, on la voit donc dans son rôle de pilote. Elle partage sa vie avec un médecin sur dans une villa merveilleuse. Tout est discipliné dans sa vie personnelle et professionnelle. Mais sa vie, évidemment, on peut s'imaginer, elle va basculer quand elle va retrouver par hasard une ancienne amante. Et là, le réalisateur nous amène dans un mélange de thriller psychologique et qui va verser dans le fantastique. Parce que il a voulu s'intéresser à l'hyper-contrôle et aussi à l'inconscient. Comment l'inconscient peut venir dans notre vie et tout faire chavirer. Quand on est mené aussi par le désir, un désir amoureux, mais un désir aussi toxique, on n'en arrive pas à s'en sortir. Alors, il joue beaucoup avec la temporalité. Donc, est-ce que ce qu'on voit est réel? Est-ce que c'est ce qu'elle vit ou c'est ce qu'elle imagine avec des rêves prémonitoires? Alors, on joue constamment sur ces deux plans dans ce film.
Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est intéressant?
Bien, ce qui fait, c'est qu'on se pose continuellement des questions.
Oui.
Hein? C'est un film quand même de 2 heures qui aurait pu être beaucoup plus ramassé. C'est un suspense qui est quand même long, qui s'étire. Mon Dieu, on se demande vraiment, moi je me posais vraiment des questions. Est-ce que c'est ce qu'elle vit? Donc on joue beaucoup avec les rêves prémonitoires, le symbole de l'œil. Hein. Le film s'appelle Vision. Hein. Donc il y a l'œil voyeur, il y a le symbole de l'œil qui revient constamment dans ce film. Hein. L'œil qui regarde par un petit trou, par une fissure. Ça devient un peu redondant. Par contre, le personnage de Estelle, interprété par Diane Kruger, c'est un rôle très exigeant physiquement pour elle, parce qu'elle est presque de toutes les scènes. C'est un plaisir de la revoir aussi, parce que ça fait quand même quelques années qu'elle n'a pas tourné en français. Il y a aussi Mathieu Kassovitz qui interprète son mari. Je dirais que c'est un personnage quand même assez terne. dans son interprétation.
Ah oui.
Dans son rôle aussi. On n'est pas habitué à le voir dans ce type de rôle-là, de, d'homme aussi quand même contrôlant, rationnel.
On l'avait vu dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, oui. Où il était très charmant.
Très charmant. Là, non, il est plutôt éteint. Bon, c'est peut-être le personnage, mais quand même, j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas très bien dans la relation entre les deux, dans la chimie entre les deux, disons. Et il y a Marta Nieto, qui est une actrice espagnole, qui joue l'amante, mais je dirais que c'est un rôle quand même très réducteur, de rôle, vous savez, de l'amante rebelle, diabolique.
Ouais. On est dans le stéréotype, là.
On est dans le stéréotype. La fin est complètement ouverte, qui nous désarçonne. Alors, c'est une fin qui est faite exprès pour justement nous questionner sur qu'est-ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'on boucle la boucle? Je ne vous en dis pas plus. Mais c'est un film qui verse dans le fantastique. Je dirais que, oui, pour nous poser des questions, en effet, on s'en pose des questions. Mais est-ce que c'est un peu trop?
Ouais.
En fait, il mêle les clés. Il a voulu jouer justement sur le contrôle et la perte de contrôle et l'inconscient qui va contaminer, qui peut contaminer une vie, en fait.
Alors, Vision, on peut voir ce film actuellement à l'affiche? Ou
Non, ce sera à partir du 20 octobre à Montréal et au Québec.
OK. Pour ceux qui se sont ennuyés de Diane Kruger, peut-être
oui.
À voir. Sinon,
oui.
On peut passer son tour.
Oui, en effet. Mais c'est un très beau rôle pour elle, très exigeant, à la fois physique, parce qu'il faut qu'elle soit en super
parfait.
Forme, mais aussi mentalement.
OK. Alors, on passe à un film québécois, cette fois, un cinéaste que vous connaissez très bien, très chère Louise Véronique Sicotte, parce que vous
oui.
avez... Vous l'avez étudié, vous avez étudié certains de ses films
oui.
dans le cadre de votre mémoire de maîtrise.
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez pensé de Testament?
Ah là 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 là.
Ah là 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 là, ça commence comme ça.
Ça commence comme ça, en effet. Testament, c'est... on reconnaît le sarcasme et le cynisme de Denis Arcand, bien sûr. Mais ce n'est pas son meilleur film. On est loin de Jésus de Montréal. Et des invasions barbares. En fait, il tire sur plusieurs catégories de personnes et de communautés dans ce film. Il tire sur la classe politique, sur les médias, sur la jeune génération qui dénonce des aberrations historiques. Il tire aussi sur les personnes âgées. C'est un film où il mêle les stéréotypes, la farce, une sorte de film à sketch, mais aussi des moments émouvants avec le personnage de Rémi Girard, qui est un peu son alter ego,
mm-hmm.
qui est un homme à la retraite, qui souffre de solitude, qui travaille à la grande bibliothèque, aux archives, en fait, mais qui est un peu déconnecté de ce qui se passe maintenant. En fait, il ne sait pas comment comprendre le monde. Alors, dans la narration en voix hors-champ, le personnage de Jean-Michel Bouchard s'interroge, se confie, en fait. Et ça, c'est quand même une scène, des moments très émouvants, parce qu'on essaie de comprendre comment il vit cette situation, cette époque qu'il ne comprend pas. Donc, il y a quand même beaucoup une narration qui est touchante parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes âgées de sa génération qui vont se reconnaître. Par contre, il verse aussi dans la farce, donc beaucoup dans la caricature pour des moments drôles, mais qui sont, je dirais, certains malaisants. Il y a beaucoup de personnalités d'acteurs, d'actrices qui jouent dans ce film. Hein. C'est vraiment une sorte de brochette. Là. Tout le monde voulait jouer dans le film.
Ah oui, de Marie-Mé à Yves-Jacques en passant par Robert Lepage. Et le bottin est là ou presque.
Le bottin est là ou presque.
On n'a presque plus de temps, mais allez-y, quelques secondes encore. Est-ce que ça vaut le détour? Parce que les gens sont au rendez-vous, hein? Le box-office.
Les gens sont au rendez-vous. Quand je suis allée, la salle était comble.
Est-ce que ça riait? Est-ce que ça réagissait? Est-ce que ça applaudissait?
Applaudissait, ça n'a pas été tellement mon cas, mais à côté de moi, il y a un monsieur qui disait à l'autre, « Ah, c'est le meilleur film que j'ai vu depuis cette année. »
Bon.
Hein, donc,
c'est un film qui fait parler, en tout cas.
Oui, mais...
on a envie d'échanger après l'avoir vu. Et puis, donc, je rappelle que vous parliez de Testament de Denis Arcand. Et on n'aura pas le temps de parler du Festival du Nouveau Cinéma. Vous l'avez évoqué en parlant du film de Desjardins, Chip
oui.
Chip, mais ça affiche complet, mais il faut en profiter jusqu'au 15 octobre.
Absolument, il y a vraiment des sorties, il y a vraiment des films québécois qui vont sortir. Et vraiment, c'est à voir, des belles découvertes.
Merci beaucoup, Louise-Véronique Sicotte. Soignez-vous bien, puis merci d'avoir été avec nous malgré une petite bronchite qui ne finit plus.